Chapitre 16. Un soir, Nicolas rentra exténué à l'hôtel. Dès qu'il marchait un peu, surtout quand il portait un pardessus, il ressentait entre les deux épaules une douleur qui, à la fin de la journée, gagnait les bras et le cou. Il éprouvait alors une sorte d'engourdissement qui devenait douloureux dès qu'il faisait un geste ou tournait la tête. Ce soir-là, d'avoir porté tout le jour un pardessus alourdi par la pluie, cet engourdissement le paralysa à demi. Il repoussa la porte derrière lui d'un geste las et se laissa tomber sur une chaise. Il avait couru toute l'après-midi les rues pour chercher quelques francs à emprunter, mais en vain. Personne ne l'avait reçu. Dans un bottin, il avait trouvé l'adresse d'un certain Baumgartner, établi pharmacien. « Cela doit être ce fameux type dont parlait mon père. » Il se rendit à l'adresse indiquée. Mais le pharmacien, méfiant, s'était réfugié dans le vague. Ses souliers étaient trempés, son visage couvert d'un glacis de sueur, de poussière et de pluie. Il rêvait d'un bain, d'une chaise sur une terrasse ensoleillée, et, au lieu de cela, il se trouvait dans cette chambre longue et étroite comme un boyau, au mur sale et dont la fenêtre, au montant gonflé par l'humidité, se fermait avec difficulté. Sa mère, assise sur le lit, attendait que l'eau qu'elle avait mise sur la lampe à alcool pour se faire une tisane eût bouilli. La situation des aphtalions était désespérée. Où qu'ils se tournassent, ils rencontraient la même froideur hostile. Partout, ils avaient frappé, partout, on les évitait. Chaque fois qu'ils se retrouvaient, après plusieurs heures d'absence, ils puisaient l'un dans l'autre une force nouvelle. Chacun espérait de l'autre une nouvelle réconfortante, et ils parlaient à peine pour garder plus longtemps cet espoir. Ce soir-là, pourtant, Nicolas s'écria tout de suite « Cette fois, ça y est, nous sommes au fond, bien au fond !» Il prononça ces mots avec la certitude qu'il n'y avait rien à espérer du côté de sa mère. Elle le regarda sans que la moindre expression d'angoisse contractât ses traits. Depuis que son fils ne travaillait plus, elle était indifférente à tout. Il ne lui venait même plus à l'idée de réagir ou de lutter. Elle s'était résignée. Elle se laissait aller doucement, éprouvant comme une joie à le faire. Jamais elle ne se rebellait, tandis que Nicolas, au contraire, invectivait contre tout le monde. Elle l'écoutait alors distraitement, coupant ses paroles par des observations apaisantes. « Cela ne sert à rien de se fâcher !» Ou bien « Laisse faire, on verra bien !» Il lui semblait que rien de pire n'eût pu arriver, tellement elle était tombée bas. Elle dormait tout habillée, ne se peignait plus, et quand elle sortait, faisait entrer tous ses cheveux pêle-mêle dans son chapeau. Elle évitait de se regarder dans les glaces, et s'il advenait qu'elle se dirigeait instinctivement vers l'une d'elles, et qu'elle surprit une seconde son image, elle baissait immédiatement la tête. Mais ensuite, il fallait des heures pour que le souvenir de son visage vieilli et luisant, qui lui était apparu un instant, quittât son esprit. Parfois, elle allumait une cigarette et, après s'être allongée sur son lit, suivait des yeux la fumée qui volait au-dessus d'elle. « Alors, tu n'as rien trouvé ?» demanda-t-elle avec indifférence. « Rien du tout. » Elle parut ne pas entendre et, avec lassitude, regarda la flamme bleue de la lampe à alcool. « Je crois que ce n'est plus la peine de chercher, » continua-t-elle au bout d'un moment. L'eau bouillait, mais elle ne se dérangeait pas. « Tu veux plaisanter ?»«
Non. »«
Tu perds la tête, alors ?»«
Non, on n'a qu'à ne plus bouger. Quand nous serons à demi-morts de faim, « peut-être viendra-t-on nous chercher avec une voiture et nous conduira-t-on à l'hôpital ?»
Nicolas réfléchit un instant sur les paroles de sa mère. Cette supposition lui semblait consolante. D'apercevoir le tréfonds de sa déchéance la faisait paraître moins grande. Ce qui paraissait n'avoir pas de fin se limitait tout à coup. « Oui, mais en sortant de l'hôpital, ce serait à recommencer. »«
Qu'est-ce que tu veux? On recommencerait ?»
Et jusqu'à quand?
Jusqu'à la fin.
Drôle de solution.
C'est une solution comme une autre.
Soudain, Madame Aphtalion, qui jusqu'alors avait paru très calme, fut prise d'un tremblement. Sa tête branlait comme celle d'une vieille femme.
Ses mains, ainsi que celles d'un moribond, se fermaient, s'ouvraient, se contractaient en des positions si peu naturelles que, par moments, on eût dit qu'elles étaient déformées par la paralysie, semblant chercher à s'accrocher à un objet solide. Elle balbutia dans un éclat de rire. « Comme cela, jusqu'à la fin ! Hé hé ! Jusqu'à la fin !» Nicolas ne put supporter le spectacle de cet égarement. Il s'approcha de sa mère, la prit par la taille, cependant que de son autre main, il s'efforça d'immobiliser ses bras. « Calme-toi, maman, calme-toi, il ne faut pas exagérer. Après tout, on est en bonne santé. Il y en a de plus malheureux que nous. Et les tuberculeux, qui n'ont pas de quoi se soigner. « Laisse-moi, laisse-moi !» cria Madame Aftalion en tentant de se dégager. « Je te dis de me laisser !» Nicolas recula d'un pas. « Si tu es comme ça, je te laisse. » À ces mots, elle retrouva subitement son calme. Comme si rien ne s'était passé, elle regarda son fils durant quelques instants, puis, détournant la tête, parla tristement devant la partie vide de la pièce. « Elle n'est pas belle, cette fin, pour moi. Elle n'est d'ailleurs pas si loin qu'on pourrait le croire. Tout est beaucoup plus simple que nous le pensons. Au fond, on meurt très facilement, et personne même ne s'en aperçoit. » De nouveau, elle fit face à son fils. « Quand je ne serai plus là, tu sauras mieux t'arranger. Je dois être un poids pour toi. » « Tu parles en l'air. »« Je parle en l'air ?» Elle prononça ces derniers mots avec candeur, comme un enfant qui dit « C'est donc mal ce que j'ai fait là ?» Ses lèvres se serrèrent. Le creux qu'elle avait entre la bouche et le menton se plissa de petites rides tremblantes, et elle éclata en sanglots. Elle se cacha le visage dans le lit, elle qui, jusqu'à ce jour, n'avait jamais voulu poser ses joues sur la couverture sans teinte. Quand elle reprenait sa respiration, ses pleurs étaient encore plus violents. Ils retentissaient dans cette chambre misérable d'une manière désespérée. Nicolas sentait que tout ce qu'il eût pu dire ne la calmerait pas. Une pensée tout à coup le baigna comme une nappe de lumière. Il possédait 1 million. Il imaginait sa mère l'apprenant, la sortie de cette chambre malgré l'heure tardive, la fièvre des achats le lendemain, la griserie d'un voyage, tant de bonheur qu'il se fit violence pour chasser ses divagations. « Ne pleure pas, dit-il enfin. Demain, je trouverai de l'argent et tout s'arrangera. » Il était bouleversé. Madame Aftalion sanglotait toujours. La lampe à alcool s'était éteinte. Il faisait sombre dans la pièce. À tâtons, elle cherchait un mouchoir sous l'oreiller. Sur les carreaux de la fenêtre fermée, on entendit le crépitement léger de la pluie. Devant ce désespoir, Nicolas était anéanti et sans plus de ressources qu'au côté d'un malade, atteint d'un mal inexorable. « Maman, calme-toi, tu rends notre vie encore plus difficile. Si tu pleures comme cela à chaque instant, comment veux-tu que nous sortions de cette impasse ?» Le visage, toujours dissimulé dans les couvertures, elle continuait à pleurer. « Réponds-moi au moins !»« Quoi répondre ?» dit-elle très vite, tellement ses sanglots étaient rapprochés. « Ce que tu veux. »« Cela ne sert à rien !» Nicolas s'approcha d'elle, puis s'assit à son côté. « Ne mets pas comme cela ta figure contre la couverture. » À peine eut-il achevé que Madame Aftalion se souleva à demi, ouvrit le lit et, enfouissant son visage dans l'oreiller, se remit à pleurer. « Je vais sortir, maman, je vais encore chercher. Mais couche-toi et ne pleure plus. » Dehors, la pluie fine qui tombait depuis midi n'avait pas cessé. Nicolas ne savait où aller. Des lumières brillaient aux fenêtres, parfois si hautes dans la nuit, que les maisons invisibles semblaient immenses. Les phares des automobiles dans les rues désertes ne s'allumaient qu'au carrefour. Nicolas fouillait dans sa mémoire pour retrouver une adresse, un nom, un visage. Soudain, il pensa à Bamboula, le nègre qu'il avait rencontré plusieurs fois au temps où il fréquentait le Monaco. Il devait lui être reconnaissant de n'avoir jamais pris parti contre lui, ni l'avoir tourné en ridicule. Nicolas lui prêtait un dévouement de bête et un grand cœur. « Ce n'est pas lui, pensa-t-il, qui remarquera que je suis mal habillé. S'il me refuse, cela n'a pas d'importance. Personne n'en saura rien. En trois quarts d'heure, je serai rue Chaptal. » Nicolas se hâta vers le Monaco. En marchant, il réfléchissait à l'attitude qu'il conviendrait de prendre. « Je l'attendrai devant le café. Quand il sortira, je ferai comme si j'allais y entrer. Je l'entraînerai à l'écart. Il sera fier de me prêter quelque argent. » C'était justement l'heure à laquelle le nègre venait bavarder au comptoir. « Je t'attends là, mon vieux, » fit Nicolas en arrivant devant le Monaco. Après avoir longuement cherché quelle somme il pouvait demander, il s'arrêta à 100 francs. « Après, cela ira mieux. J'aurai 3 ou 4 jours de tranquillité devant moi. Je pourrai me retourner. J'irai voir par exemple Charles, mais sans rien lui demander. Et tout s'arrangera. » Nicolas passait et repassait devant le café. Sur les vitres embuées, il apercevait la silhouette du nègre qui, vêtu de son pardessus clair, levait à chaque instant les mains au ciel. Comme il ne sortait pas du café et que Nicolas, vêtu ainsi qu'il l'était, ne voulait pas y entrer de peur de rencontrer des clients qui le connaissaient et aussi parce qu'il n'avait pas de quoi prendre une consommation, il alla s'abriter dans l'encoignure obscure d'une porte cochère d'où il pouvait guetter le Monaco. Une demi-heure s'écoula ainsi. Finalement, Bamboula sortit, non sans bavarder encore quelques instants avant de fermer la porte. Avisant le marchand d'huîtres, installé à la terrasse, il lui cria « Pas bon, tes poissons !» Puis, après avoir hésité à quitter la partie de trottoir protégée par le store, il releva le col de son pardessus, tendit la main, comme il avait vu faire pour voir s'il pleuvait, et délibérément s'engagea dans la rue. Le cœur battant, Nicolas, qui, à cause du marchand d'huîtres, n'avait pas osé s'avancer plus tôt, le rattrapa. « Venez, je voudrais vous parler. »« À moi ?»« Oui, venez. »« Moi, pas connaître toi. »« Mais si, venez, je voudrais vous parler, » continua Nicolas en s'efforçant d'entraîner le nègre à l'écart, de peur d'être remarqué en sa compagnie. Bamboula s'arrêta. Un soupçon venait de traverser son esprit. Bien que Nicolas le tirât par le bras, il ne bougeait pas. Dans son âme primitive, il sentit que le mieux était d'élever la voix, de façon à attirer l'attention des passants. « Toi, vouloir causer avec moi » cria-t-il. « Oui !» fit Nicolas en lui faisant signe de parler plus doucement. « Moi, vouloir crier !» Il devinait confusément que personne n'avait le droit de l'empêcher de crier et que hausser le ton était la meilleure défense. Nicolas était désemparé. « J'aurais dû le suivre et l'accoster plus loin, » pensa-t-il. « Suis-moi dans la petite rue. »« Non, moi, pas bouger, » répondit le nègre. Nicolas comprit alors qu'il ne pouvait rien espérer de Bamboula. Pourtant, afin d'en avoir le cœur net, il demanda « Peux-tu me prêter 100 francs jusqu'à la fin de la semaine ?» Bamboula se mit à hurler. « Prêter 100 francs à toi ? Moi, à toi, 100 francs ?» « Oui, je te les rends dans 3 jours, » continua Nicolas en enjoignant toujours du geste le nègre à parler doucement, ce qui avait le don d'exaspérer plus encore celui-ci. « Pourquoi 100 francs ? Je te demande si tu peux me les prêter. »« Les prêter à toi ? Oui. Pourquoi prêter ?» Bamboula simulait l'incompréhension. Durant quelques moments encore, Nicolas insista, puis, furieux contre l'inconsistance du nègre, lui dit en s'éloignant « Va-t'en, imbécile ! Tu ferais mieux de retourner dans ton pays !» À peine venait-il de faire quelques pas qu'il aperçut à son côté Bamboula qui fixait sur lui un regard mauvais. « Pourquoi, imbécile ? » demanda-t-il en se penchant au point de toucher de son visage celui de son interlocuteur. « Laisse-moi tranquille !» Le nègre se mit à hurler. « Moi, imbécile, parce que pas donner argent à toi !» Des passants se retournaient. Nicolas ne savait comment se débarrasser du nègre. Il répéta « Laisse-moi tranquille !» Puis il accéléra le pas. Mais Bamboula continua à le suivre sans se lasser de crier « Moi, pas donner argent à homme ! Moi, te montrer si moi, imbécile !» Il cherchait à provoquer un attroupement. « Moi, papier et croix de guerre » hurlait-il en prenant les passants à témoin. Nicolas ne savait quelle attitude prendre. Il hésitait à se faire conciliant, de peur que le nègre ne devînt plus violent encore. Il s'arrêta.
« Qu'est-ce que tu veux ?»
Bamboula le menaça d'un geste.
« Moi, imbécile ! Toi, répétez, moi, imbécile !»
Nicolas comprit que s'il persistait à garder un air hautain, le nègre ne le lâcherait pas et profiterait de la première occasion pour causer du scandale.
« Moi, pas parler de toi, » répondit-il.
Mais Bamboula continua.
« Si, toi, vouloir argent et dire « moi, imbécile !»
Il devinait que Nicolas le craignait et qu'il était dans son droit. Aussi était-il fier à la pensée que, si des curieux se mêlaient à leur querelle, il lui donnerait raison.
« Toi, vouloir 100 francs et dire « moi, imbécile, parce que moi, pas donner argent à toi !»
Soudain, Nicolas frissonna de peur. Il venait de lui apparaître qu'il ne pourrait jamais se séparer du nègre, que celui-ci le suivrait à son hôtel, frapperait sa mère, que quelque chose de grave allait se passer, qu'il serait conduit au commissariat où on le garderait, jusqu'à ce qu'une enquête soit faite sur ses moyens d'existence. Il n'eut plus qu'un désir, par n'importe quel moyen, être de nouveau seul. Il s'efforça de rire.
« Que tu es drôle, toi ! Moi, plaisanter avec toi !
Toi, plaisanter ?
Oui, rire, rire !»
Une expression d'étonnement se peignit sur le visage de Bamboula. Il était désorienté. Tant que la conversation avait été sérieuse, il s'était senti le plus fort. À présent, le rire le désarmait. Il présumait que du moment que l'on riait, les gens se tourneraient contre lui.
« Toi, moquer de moi !»«
Non, moi, rire avec toi. Tous les deux, rire ensemble. Allons, au revoir, à demain !» Nicolas tendit la main à Bamboula, qui la serra à contre-cœur, puis il s'éloigna d'un pas assuré. Pourtant, le nègre le suivit encore, tout en répétant, mais faiblement,
« Toi, demander argent à moi !»« Toi, demander argent à moi !»
Finalement, il s'arrêta et, immobile sous la pluie, attendit d'avoir perdu de vue Nicolas, qui, tous les 20 mètres, regardait derrière lui, en simulant de suivre des yeux quelque automobile. En arrivant sur la place Clichy, Nicolas éprouva un profond soulagement. Réfugié dans la foule et les lumières, il se sentait à l'abri. Mais le désir subit de s'asseoir dans un café pour boire quelque chose de chaud lui rappela sa condition et lui fit paraître insignifiant le bonheur d'être débarrassé du nègre. À cause d'une crainte irraisonnée d'avoir l'air de flâner, il s'engagea dans la première avenue qui se présenta devant lui. La pluie n'avait point cessé. Dans les cafés éclairés, peu de consommateurs étaient attablés. Il semblait que les citadins eussent pris l'accord tacite de ne point sortir après le dîner et de profiter de cette soirée détestable pour se reposer plus longuement. « Si au moins j'avais quelques francs sur moi, » pensa Nicolas, « je me reposerais un peu, j'achèterais des cigarettes, je me restaurerais. Mais ainsi, sans rien, c'est à se jeter dans la Seine. » Ses mains étaient brûlantes. Pourtant, le froid lui glaçait les épaules. Depuis longtemps, la pensée de revoir Simone le harcelait. Mais chaque fois, un sentiment de gêne l'avait retenu. Il lui répugnait, après l'avoir laissé 2 mois sans nouvelles, de se présenter à elle dans un tel état de dégradation. C'était vêtu comme un prince, cependant qu'une automobile l'attendait devant la maison, qu'il s'imaginait parfois se rendant rue Legendre. Il regarda une horloge dans un magasin. Il était près de 9 heures. « La concierge ne doit pas être couchée, » pensa-t-il. Sans s'en rendre compte, il se dirigea vers le square des Batignolles, près duquel habitait Simone. « Il est trop tard maintenant. Je lui ferai peur en frappant à cette heure à sa porte, » dit-il en marchant. La pluie coulait sur son chapeau. Il était si las qu'il prenait plaisir à ne pas éviter les flaques, à patauger dans l'eau. Une seconde, il pensa à s'en retourner. Mais la perspective de regagner à pied la rue de la Cavalerie, et surtout celle de revoir sa mère en train de se lamenter, lui était par trop odieuse. Une force contre laquelle il ne luttait pas le poussait vers la maison de Simone. Elle lui ferait du thé et des tartines de pain et de beurre. Il reposerait dans sa chambre chaude pendant qu'elle allumerait du feu pour faire sécher ses vêtements. En le voyant tomber si bas, elle aurait pitié de lui. Elle lui prêterait un peu d'argent. Elle comprendrait pourquoi il n'avait pas voulu la revoir et lui pardonnerait tout. Petit à petit, l'amour que les mois d'absence avaient sans doute éteint se ranimerait en elle. La porte d'entrée de l'immeuble qu'habitait Simone était fermée. Nicolas leva les yeux pour chercher les lumières, mais il ne savait pas si, au quatrième, les fenêtres de son ami étaient celles de gauche ou de droite. D'ailleurs, toute la façade était obscure. Dans l'indécision, il arpenta longtemps le trottoir. Puis, levant la tête, il appela « Simone ! Simone !» Aussitôt après, il se cacha dans l'encoignure d'une porte cochère. Aucune fenêtre ne s'ouvrit. Il recommença. Alors, le premier étage, sans doute parce qu'il était plus proche de lui, s'illumina tout entier. Un homme se pencha dehors. Puis, des tentures masquèrent de nouveau la lumière. Il pleuvait toujours. La rue était déserte. De temps en temps, un passant se hâtait vers son domicile. « Je vais attendre jusqu'à minuit, » pensa Nicolas. « Elle ne doit pas être rentrée. » Pour s'occuper, il allait et venait, s'éloignant parfois de manière à hâter le retour, de crainte que Simone entrât chez elle à ce moment. Bien que la température ne fût pas froide, il grelottait. De l'endroit où il se trouvait, il percevait le bruit des trains électriques de la gare Saint-Lazare, dont les étincelles illuminaient parfois le bas de la rue, ou bien des sifflements lugubres de locomotives. Il avait envie de pleurer, mais il se raidissait. « Quelle déchéance ! Quelle déchéance ! » répétait-il. « N'existe-t-il donc pas un moyen d'en sortir ? Ce n'est pas possible. Je raconterai mon histoire que personne ne me croirait. Il vaudrait mieux être sous terre. » De temps à autre, une sorte de tic lui faisait remuer les épaules, comme s'il eût voulu les séparer des vêtements mouillés. Des souvenirs le berçaient, car à présent qu'il était déchu, il se présentait à lui avec une netteté extraordinaire. En pensant à eux, il les revivait. Que jadis, il n'eût point savouré la vie qu'il avait menée, il ne pouvait maintenant se l'expliquer. Des souvenirs, vieux seulement de quelques mois, comme celui de l'appartement meublé de la rue Eugène Manuel, lui apparaissaient empreints de bonheur. Cela devenait maladif. Le passé était continuellement présent à son esprit. Entre sa mère et lui, ils formaient le sujet principal de leur conversation. Couchés chacun dans leur lit, ils en parlaient jusqu'à ce qu'ils s'endormissent. Nicolas enragé de n'avoir point conservé des années écoulées quelques objets qu'il eût pu montrer et qui eussent prouvé l'aisance dans laquelle il avait vécu. Il avait égaré cette photographie qui le représentait en compagnie de sa mère et de jeunes filles sur une promenade de Nice avec la mer pour fond. Il avait vendu sa montre-bracelet. À l'entrée d'un immeuble de la rue Legendre, il y avait de chaque côté une borne pour protéger les murs. Il s'assit sur l'une d'elles. Soudain, il entendit sonner 11 heures. Aucun carillon n'avait précédé les coups. Il songea pourtant à celui d'une cathédrale qu'il avait entendu au cours d'un voyage en traversant une ville paisible. « Si mon père me voyait là, » pensa-t-il en se rendant compte tout à coup qu'il était assis dans la rue en pleine nuit sous la pluie. Une haine profonde montait en lui contre ses parents et les amis de sa mère. Au lieu de l'aider, on l'évitait. Il eût suffi cependant, pour le tirer de ce mauvais pas, de lui assurer la vie matérielle. Souvent, il calculait ce que les Rousseau ou autres eussent pu faire pour lui sans changer pour cela leurs habitudes. Il lui semblait tellement simple de l'héberger, par exemple, qu'il ne comprenait pas qu'ils se refusassent à le faire. « Comme je serais généreux si j'étais à leur place !» se disait-il. En effet, il s'imaginait qu'il aurait en ce cas toutes les prévenances et toutes les délicatesses, celles justement qu'il eût désiré qu'on manifestât à son endroit et qui eussent fait naître en lui une gratitude infinie. Soudain, il entendit un bruit de pas. Il leva la tête. Simone, qui ne l'avait pas aperçue, s'avançait au milieu de la chaussée. Un soulagement profond l'inonda. Il eut l'impression que ses maux prenaient fin, qu'une nouvelle vie s'annonçait. « Simone, c'est toi ? » interrogea-t-il avec force en se dressant brusquement. « Je t'attendais. » Elle s'arrêta comme au seuil d'une chambre obscure, puis, reconnaissant Nicolas, poussa un cri perçant, isolé dans la nuit. C'est moi, fit Nicolas, qui craignait d'être confondu dans l'obscurité avec quelque malfaiteur.
Toi ?
Je t'attendais.
À ma porte ?
Je t'attendais. En deux mots, il eût voulu faire comprendre à la jeune fille qu'il ne s'agissait plus de sentiments, mais d'une grande détresse. Elle m'aime encore, pensait-il, elle ne me repoussera pas. Elle comprendra quand je lui aurai tout expliqué. Cependant, l'apparence de la chercher au moment où il était démuni de tout, et cela après l'avoir quitté quand il semblait encore à l'aise, le gênait horriblement. Aussi n'avait-il qu'un but, écarter les questions sentimentales et lui dire par exemple « Simone, nous n'avons plus rien. Oh, ne crois pas que je te demande quelque chose. Réconforte-moi seulement un peu. Ne me repousse pas. Aie pitié d'un homme que tu as aimé. » Il sentait pourtant au fond de lui-même comme une immense dégradation de songer que cette femme ne serait pas dupe et verrait derrière ses paroles le désir intéressé de renouer.
« Tu m'attendais ? » répéta-t-elle. « Qu'est-ce que cela veut dire ?»
Nicolas n'avait pas le courage d'avouer la vérité. Il était pris entre deux feux. Il devinait d'autre part que tout dans son attitude semblait démontrer qu'il cherchait à la reprendre par brusquerie.
« Il pleut, Simone. Je te raconterai tout chez toi si tu veux. Regarde-moi, je suis épuisée. »«
Je ne peux pas. »«
Tu ne peux pas quoi ?»«
Te recevoir chez moi. » Nicolas s'appuya contre le mur. C'était un des gestes théâtraux qu'il affectionnait. Il eut conscience que, cette fois, tous les êtres humains de la terre le lâchaient. Il se raidit. Un instant, il pensa à s'enfuir en sanglotant. Puis, ainsi qu'il l'eût fait auprès d'une femme riche qu'il n'eût point aimée, il se fit doucereux.
« Pourquoi, Simone ?
Tu es partie. Je ne savais pas.
Alors ?»
Alors j'ai été malheureuse, j'ai cru que tu ne reviendrais plus. Aussi, pourquoi m'as-tu laissée comme cela ?
Je ne t'ai pas laissée.
Je ne suis plus seule maintenant. Simone apparut en ce moment aussi lointaine à Nicolas qu'une passante. Elle était enveloppée de douceur, de tendresse, de chaleur, mais tout cela comme défendu par une cloison. L'amour sur quoi il avait joué n'existait plus. Et ce qui restait, l'attrait de l'homme qu'il exerçait sur elle lui semblait aussi faible que la retenue qu'il eût pu provoquer chez une femme quelconque et qui, pour lui, eût seulement eu une pudeur différente de celle qu'elle avait en compagnie d'autres femmes.
« Regarde-moi, » dit-il de nouveau en se tournant vers une lumière. La pensée qu'il n'eût pas pris cet air souffreteux devant un homme le blessa. Malgré tout, c'était à une femme plus faible que lui qu'il s'adressait, en espérant ranimer en elle un amour qu'il ne pouvait croire mort. Son visage était pâle, ses traits défaits. Les lumières jetaient des reflets mobiles et des ombres sous ses arcades sourcilières au creux des joues. Les habits mouillés, la barbe qui avait poussé sur son menton, le col sale lui donnaient un aspect misérable.
« Mon pauvre petit, je ne peux plus rien pour toi !»«
Regarde-moi !» cria encore Nicolas, pris cette fois d'une fièvre d'humiliation. « Je n'ai plus rien, ni argent, ni vêtements. Je suis une bête à présent. Regarde-moi. Tu n'as donc pas pitié de moi ? Tu me laisses ainsi ?»
Que la folie de ses gestes, de ses pensées, que le brouhaha de sa vie intérieure allasse vers un autre être que sa mère, le soulageait et redonnait à son corps une chaleur humaine. De se plaindre auprès d'une femme qui lui apparaissait maintenant nouvelle, faisait qu'il éprouvait la sensation délicieuse de pénétrer dans le monde, d'en faire partie, de se fondre avec lui. Tout ce que, depuis des semaines, il avait gardé secrètement en lui, sortait de sa bouche. On l'écoutait, on allait prendre part à ses souffrances.
« Je vais sans doute mourir, Simone. On ne peut endurer des maux pires que les miens. Si tu me quittes, tu le regretteras. Au fond, cela t'est égal que je meure. Tu as déjà tout oublié. »
« Tu veux venir chez moi ?»«
je ne sais rien. »«
Viens si tu veux, mais promets-moi de partir de bonne heure demain matin. Mon ami doit venir me chercher. Tu coucheras sur le divan. Je te ferai quelque chose de chaud. Mon pauvre petit, je ne peux rien faire de plus pour toi. »